L'heure du journal présenté ce soir par Aurélie Kiffer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Pas de fraude électorale en Bolivie, selon Evo Morales. Pour le président bolivien, c'est la grève générale déclenchée par l'opposition qui relève du coup d'État. Reportage d'Alice Campagnol à La Paz. La création d'une zone de sécurité en Syrie est un grand succès, clame Donald Trump. La France, elle, dénonce la perte de crédibilité des États-Unis et de l'Alliance Atlantique, analyse de Christian Chéneau. La lutte contre la fraude fiscale progresse en France. L'État se félicite d'avoir engrangé 5,6 milliards d'euros de recouvrement d'impôts en 9 mois, précision de Pauline Renoir. La loi de 2016 sur la prostitution est diversement appliquée. La Fondation Celle salue le travail fait à Paris, où des personnes qui veulent sortir de la prostitution sont de mieux en mieux accompagnées. Explication de Florence Turm. Toujours pas de résultat définitif en Bolivie. Depuis l'élection présidentielle de dimanche, le pays est dans l'incertitude. Les derniers résultats partiels donnent le président sortant Evo Morales gagnant dès le premier tour. Mais l'opposition dénonce une fraude électorale et appelle les Boliviens à la grève générale. Le président bolivien s'est exprimé ce matin devant la presse pour dénoncer un coup d'État, Alice Campagnol.
Le chef de l'État est apparu combatif et déterminé, prêt à défendre la démocratie, a-t-il dit. Il a affirmé « Nous ne sommes plus au temps de la colonie, on ne peut pas imposer un président de cette façon ». Il est convaincu que l'opposition complote contre lui.
J'ai organisé cette conférence de presse pour dénoncer devant les citoyens boliviens et le monde entier qu'un coup d'État est en cours. En réalité, nous le savions déjà, la droite s'est préparée à ce coup d'État avec l'appui de forces étrangères.
Pour Evo Morales et ses partisans, il est évident qu'il a de nouveau gagné les élections pour un quatrième mandat à la tête de la Bolivie. Il a appelé à la mobilisation de ses partisans et s'il a assuré qu'il ne rentrerait pas dans la confrontation, le ton de son discours semblait dire autre chose. Plutôt, nous sommes prêts à en découdre. Pour le moment, il manque toujours une partie du décompte des voix, environ 5%, et selon le président, ce sont les opposants qui empêchent la fin de ce processus. La Bolivie est plus polarisée que jamais. D'un côté, les partisans d'Evo Morales, convaincus de la victoire du chef de l'État, et de l'autre, ses opposants, persuadés qu'une fraude électorale est en cours et qu'il devrait y avoir un second tour à cette présidentielle. Et le discours du président ce matin n'a pas apaisé la situation.
Alice Campagnol à La Paz pour France Culture. Au Chili, les mesures proposées par le président Sebastián Piñera n'ont pas ramené le calme. Les principaux syndicats appellent toujours à la grève générale aujourd'hui et demain contre les hausses de prix et les abus. Le bilan des violences est désormais de 18 morts, dont un enfant. Les forces russes avancent dans le nord-est de la Syrie. Conformément à l'accord trouvé hier par Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, Moscou va s'assurer du retrait de toutes les forces kurdes de la zone frontalière, garantissant à la Turquie l'effectivité de la zone de sécurité car elle réclame de longue date. L'accord qui entre en vigueur signe la défaite des forces démocratiques syriennes. Il profite au contraire au président syrien Bachar el-Assad et la Turquie se voit en quelque sorte récompensée d'avoir lancé son offensive le 9 octobre. Bonsoir Christian Chéneau.
Bonsoir.
Et face à ces événements, les Occidentaux apparaissent faibles et divisés.
Et surtout impuissants, Aurélie, car ils sont aujourd'hui hors jeu dans le nord-est syrien, spectateurs. Ils regardent les Russes et les Turcs régler à leur manière une crise majeure au Moyen-Orient qui les concerne pourtant au premier chef avec la possible résurgence de Daesh et du terrorisme. Et voilà, les États-Unis ont donné le signal de battre en retraite lorsque Donald Trump a rapatrié les soldats américains présents en Syrie aux côtés des Kurdes, abandonnant ces derniers à leur sort. Et il ne fait guère de doute que la France, qui a des forces spéciales sur place, devra aussi suivre l'exemple des États-Unis en transférant ses soldats vers l'Irak voisin. Résultat, face au rouleau compresseur turco-russe, les Européens n'ont plus aucun levier pour influer sur le terrain. Alors Britanniques, Allemands et Français ont certes rendez-vous avec le président turc Erdogan lors du sommet de l'OTAN début décembre à Londres, mais d'ici là, tout sera joué, les cartes auront été rebattues et pour longtemps, Emmanuel Macron ne peut que dénoncer la perte de crédibilité des États-Unis et de l'OTAN. On pourrait aussi ajouter celle de l'ONU, car Ankara a fait cavalier seul en coordination avec Moscou sans demander aucune autorisation pour envahir le nord de la Syrie. Pour les Européens, la Turquie fait figure de mouton noir de l'OTAN, ultime camouflet. Le président Erdogan s'est même permis d'acquérir les batteries de défense russes S-400, peu compatible, c'est le moins qu'on puisse dire, avec les systèmes de défense otaniens.
Christian Chéneau. Vladimir Poutine est toujours à Sotchi. Le président russe a lancé aujourd'hui son premier grand sommet Russie-Afrique dans le but de doubler les échanges économiques entre son pays et le continent africain dans les 5 prochaines années. Après 5 ans de sanctions économiques occidentales, la Russie a besoin de partenaires et de débouchés pour relancer sa croissance. C'est aussi l'occasion de montrer qu'elle est une puissance d'influence mondiale. Et 43 dirigeants africains ont répondu à l'invitation. Le reportage d'Étienne Bouche du RFI.
C'est au cœur du parc olympique de Sotchi que Vladimir Poutine reçoit pendant 2 jours ses homologues. Plus de 40 chefs d'État sont réunis au bord de la mer Noire et plus de 3000 participants pour ce sommet inédit.
C'est une occasion de rencontrer beaucoup d'investisseurs et beaucoup de partenaires économiques éventuels. Ce n'est pas une démarche culturelle, c'est une démarche économique.
Émile Mutunda-Koji est en charge des projets de développement de la province minière du Lualaba en RDC. Il espère à Sotchi nouer de nouveaux partenariats. Lors de la session inaugurale, Vladimir Poutine a fixé des objectifs ambitieux. Doubler au minimum les échanges commerciaux avec l'Afrique. Sa présence reste modeste sur le continent, mais pour Émile Mutunda-Koji, la lointaine Russie représente de nouvelles opportunités.
La Chine, elle est bien présente, très présente même, mais il faut avoir des sources variées d'investissement. Il ne faut pas dépendre que d'une seule source. Et puis, bon, il y a une certaine réputation aussi que les produits chinois en Afrique, ils sont regardés comme étant d'une certaine qualité, tandis que les Russes, c'est quand même une qualité haut de gamme.
Son passé colonial en Afrique, la Russie jouit généralement d'une image favorable. Patrick loue personnellement le pragmatisme du président russe. Depuis ses études à Saint-Pétersbourg en 2004, ce Congolais habite en Russie. À Sotchi, il fait le trait d'union entre officiels africains et représentants des affaires en Russie.
Je crois qu'ils sont plus honnêtes. Ils ont leurs intérêts et les intérêts des Africains. Il y aura un partenariat 50-50. Je suis ici depuis 15 ans. Je travaille avec eux. C'est vrai qu'ils ne connaissent pas l'Afrique et ils s'intéressent. Donc on doit inviter aussi les Russes en Afrique parce qu'ils sont plus loyaux.
La Russie espère quant à elle s'offrir de nouveaux débouchés dans un contexte diplomatique difficile avec les Occidentaux.
Étienne Bouche, à Sotchi. Le Brexit va-t-il être encore reporté de quelques jours ou jusqu'au 31 janvier? Après les dernières passes d'armes au Parlement britannique, la balle est maintenant dans le camp de l'Union européenne. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a recommandé aux États membres d'accepter un troisième report de 3 mois. Le sujet doit être abordé en fin de journée à Bruxelles par les ambassadeurs auprès de l'Union européenne. 39 corps découverts dans un camion dans une zone industrielle à l'est de Londres. On sait que beaucoup de migrants tentent de rejoindre le Royaume-Uni en se cachant dans des remorques ou en utilisant des embarcations pour traverser la Manche. Mais il y a encore dans cette affaire beaucoup de zones d'ombre. Une enquête a été ouverte. Le chauffeur a été arrêté pour meurtre, Antoine Gignot.
C'est la photo d'un jeune homme brun, chapeau de cow-boy sur la tête, perché dans une cabine de 38 tonnes que publient ce soir plusieurs médias britanniques. Il le présente comme le conducteur de 25 ans, arrêté la nuit dernière et mis en examen pour meurtre. Il est, selon le Guardian, originaire de Portadown, au sud de Belfast, en Irlande. Son camion, immatriculé à Varna, dans l'est de la Bulgarie, appartient d'ailleurs à une société irlandaise. La police le soupçonne d'être parti de Belgique, à Zeebruges, pour arriver en ferry vers le port de Purfleet, au sud-est de Londres, près de la zone industrielle de Grays. Impossible pour l'instant d'en savoir plus sur les 39 victimes, dont un adolescent dont les corps ont été découverts la nuit dernière. Personne ne confirme aujourd'hui qu'il s'agit de réfugiés ou de migrants qui tentaient d'entrer sur le territoire britannique. Le ministère de l'Intérieur indique tout de même que la police travaille en liaison avec la brigade criminelle chargée des enquêtes sur le crime organisé et le trafic d'êtres humains.
Antoine Gignot, correspondant de France Culture au Royaume-Uni. Aux États-Unis, un témoignage accablant pour Donald Trump est venu soutenir la procédure de destitution lancée il y a un mois par les démocrates. Ce coup de tonnerre est venu d'un diplomate américain en poste en Ukraine. Face au Congrès, il a assuré que Donald Trump avait bien utilisé ses fonctions à des fins politiques personnelles. La correspondance de Loïc Loury.
Donald Trump a bien fait pression sur l'Ukraine pour obtenir une enquête sur son rival Joe Biden et pire, le président américain a menacé, si cette demande n'était pas respectée, de ne pas honorer l'octroi d'une aide de Washington à Kiev. Ces informations explosives pour la Maison-Blanche ont donc été corroborées hier par Bill Taylor, un diplomate américain en poste en Ukraine, des propos tenus à huis clos face à des élus du Congrès qui ont immédiatement fuité dans la presse. Lors de cette audition, Bill Taylor en particulier a relaté certains échange tenu avec ses collègues qui attestent de telles pressions. Ainsi, ce message accablant envoyé début septembre, je trouve ça dingue, dit-il, de suspendre l'aide sécuritaire en échange d'un coup de main pour une campagne politique. Et que dire de cette phrase attribuée à l'un de ses interlocuteurs à propos de Donald Trump, lorsqu'un homme d'affaires est sur le point de signer un chèque à quelqu'un qui lui doit quelque chose, l'homme d'affaires demande à cette personne de payer avant qu'il ne signe le chèque. Les réactions côté démocrate sont nombreuses, outrées et satisfaites face à un tel témoignage. Tout y est, je ne sais pas quoi ajouter face à une déclaration aussi claire et détaillée, a ainsi commenté un élu. Donald Trump, lui, se défend sur Twitter, se demande aujourd'hui où se cache le lanceur d'alerte par qui tout avait commencé. L'affaire ukrainienne, pourtant, a désormais largement dépassé ce stade.
Loïc Loury à New York. 5,6 millions d'euros récoltés en 9 mois. Gérald Darmanin affiche sa satisfaction un an après le vote de la loi anti-fraude fiscale. Selon le ministre des Comptes publics, les recouvrements d'impôts ont augmenté de 40%. Alors Pauline Renoir, qu'est-ce qui explique cette augmentation?
Eh bien d'abord, la lourde amende infligée à Google, près d'un milliard d'euros en septembre dernier, et un nouveau catalogue d'outils qui a vu le jour avec cette loi anti-fraude. Depuis un an, un fraudeur a la possibilité de plaider coupable avant sa comparution et une entreprise peut négocier une amende sans procès. Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, fait le bilan.
C'est-à-dire que nous sommes passés, si on compare, de 4 milliards d'euros de fraude constatée à 5,6 milliards d'euros. Et par ailleurs, les mises en recouvrement, c'est-à-dire ce qu'on a demandé aux gens de nous rendre parce qu'ils ont été manifestement condamnés ou confondus de fraude fiscale, on est passé de 11 à 13 milliards, c'est-à-dire que nous avons une capacité d'ici la fin de l'année à atteindre un record très important, déjà dépassé, de fraude fiscale qui a été remboursée à l'État français.
Depuis un an, Bercy doit transmettre à la justice les dossiers de fraude les plus graves, au-dessus de 100 000 euros. Grâce à cela, la place Vendôme s'est emparée cette année de 587 signalements. La loi antifraude a aussi permis de créer une police fiscale qui traque les délinquants.
Aujourd'hui, la police fiscale, elle a des moyens très importants de mise en garde à vue, de filature, de géolocalisation et de confondre aussi les montages. Parce que ce qui était très important, c'est de voir comment on avait des montages de fraude. On s'évade rarement tout seul, on est souvent accompagné. Tout ça, la loi fraude le permet désormais.
À la tête de cette nouvelle police fiscale, il y a une magistrate et dans les prochaines semaines, une quinzaine d'autres officiers devraient être recrutés.
Les transports express régionaux continuent de faire l'actualité. Après l'accident d'un TER dans les Ardennes, accident qui a poussé des cheminots à faire valoir leur droit de retrait, voilà que la Cour des comptes juge les TER trop coûteux. 900 000 voyageurs empruntent chaque jour ce mode de transport qui contribue au désenclavement des zones les plus reculées. Mais l'ouverture à la concurrence est prévue pour 2023. Et dans cette perspective, Anne-Laure Jumet, la Cour des comptes juge que malgré d'importants moyens, la fréquentation est en baisse et la qualité pas toujours au rendez-vous.
Et oui, on a des TER qui coûtent cher, 8,5 millions d'euros en 2017, avec notamment un gros effort d'investissement de la part des régions. Et pourtant, la qualité de service se dégrade selon la Cour des comptes, qui estime globalement élevé le pourcentage de trains déprogrammés ou annulés par rapport à la plupart de nos voisins européens, entre 2 et 12% de trains dans ce cas sur la période 2012-2018. Et cette dégradation, elle est liée notamment à la qualité des infrastructures, explique Didier Migaud, le président de la Cour des comptes.
C'est un peu les conséquences d'un choix qui a été fait, du tout TGV, avec des conséquences sur le niveau de maintenance de nos lignes. Les TER, c'est à peu près 20 500 km de lignes, mais seulement 11 850 sont électrifiées. Voilà, donc ça peut poser effectivement un problème de ce point de vue-là.
Et le résultat, c'est donc une fréquentation en baisse sur ces TER, liée aussi au développement d'autres modes de transport, covoiturage et transport par car. Et si on zoome sur les petites lignes, on apprend que 285 gares accueillent moins de 3 voyageurs par jour. Alors la Cour n'appelle pas forcément à fermer ces petites lignes, mais à regarder comment on peut faire des économies en réduisant, dit-elle, au strict nécessaire le nombre d'agents en gare et à bord des trains. Voilà qui résonne avec l'accident de TER dans les Ardennes.
Par ailleurs, vous en avez eu la confirmation, Anne-Laure. Finalement, la SNCF renonce à saisir la justice pour faire reconnaître que le mouvement déclenché vendredi dernier était une grève surprise plutôt que l'exercice du droit de retrait. Le trafic ayant repris, cette plainte n'a plus lieu d'être, vous a précisé un porte-parole de la compagnie ferroviaire. Renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et accompagner les personnes prostituées, c'est l'objectif de la loi du 13 avril 2016 relative à la prostitution. Elle a supprimé le délit de racolage. En revanche, elle sanctionne les clients d'une amende de 1 500 euros. Elle instaure par ailleurs un parcours d'accompagnement social vers la sortie de prostitution. La Fondation SEL, engagée dans la lutte contre l'exploitation sexuelle, a voulu savoir comment la loi était mise en œuvre. Elle a commandé une étude à 2 sociologues. Ils ont travaillé sur 4 territoires différents, Paris, Bordeaux, Strasbourg et Narbonne. Bonsoir Florence Turme.
Bonsoir.
Alors cette étude de la Fondation SEL révèle d'importantes disparités entre les villes étudiées. Elle n'applique pas le nouveau dispositif légal de la même manière.
Oui, d'abord une précision. Cette étude ne vise pas à dresser un bilan de la loi et de ses effets sur la prostitution. Il est encore trop tôt pour le faire, estiment ses auteurs. Ils se sont intéressés plutôt à la manière dont les différents acteurs concernés se sont appropriés ces nouvelles dispositions, explique Hélène Pohu, l'une des 2 sociologues.
Cette loi, elle fonctionne aussi par la volonté de la mise en application de ces acteurs à échelle locale, que ce soit associations, délégués départementaux, mais également procureurs, justice, police. On a des villes où l'appropriation par les acteurs locaux et la mise en œuvre est totale. Paris en est un exemple. Et on a d'autres villes avec un modèle intermédiaire comme à Strasbourg ou encore à Bordeaux, où les acteurs se sont appropriés cette loi et commencent une mise en œuvre quasiment systémique. Néanmoins, on a également une autre ville, Narbonne, où la mise en œuvre commence, mais est aujourd'hui plus timide.
Différentes raisons à cela. À Strasbourg, où l'on dénombre seulement 3 verbalisations de clients en 2017, les policiers évoquent leur manque d'effectifs et de moyens et des missions qui se concentrent davantage sur la lutte contre le terrorisme ou la radicalisation. Sur le plan de l'accompagnement au niveau national, plus de 300 prostituées ont pu bénéficier du parcours de sortie qui prévoit une aide financière spécifique pour l'insertion sociale et professionnelle, l'accès au logement social et une autorisation de séjour provisoire pour les personnes étrangères. Mais là encore, les politiques publiques viennent parfois percuter les dispositions prévues par la loi, souligne Grégoire Théry, administrateur de la Fondation SEL.
La loi prévoit l'octroi des titres de séjour aux personnes prostituées qui entrent dans un parcours de sortie de la prostitution, mais les préfets qui sont chargés d'octroyer ces titres de séjour sont parfois réticents à le faire parce qu'ils sont eux-mêmes dans d'autres logiques de politique migratoire restrictive et donc ils vont parfois, selon les territoires, tenter d'invoquer le fait qu'on ne va pas donner un titre de séjour à cette personne parce qu'elle est déjà dans une demande d'asile ou qu'on ne va pas donner un titre de séjour parce qu'on n'est pas certain qu'elle a quitté la prostitution, etc. Donc on voit que la pression de la politique migratoire vient faire obstacle au droit à obtenir un titre de séjour.
La Fondation SEL s'appuie sur cette étude pour demander au gouvernement de veiller à la cohérence des politiques publiques locales et d'éviter ces contradictions. Désormais, elle souhaite également davantage de moyens, notamment pour les acteurs sociaux qui accompagnent les parcours de sortie. À Bordeaux, l'association Hippo, qui fonctionnait depuis de très nombreuses années, a mis la clé sous la porte pour des raisons budgétaires.
Florence Turm. Un peu de répit pour les aidants, c'est ce que doit leur apporter le plan national présenté ce matin. Un accompagnement pour leur permettre de souffler et de prendre soin de leur santé. En France, 8 à 11 millions de personnes soutiennent au quotidien un proche malade ou handicapé. Édouard Philippe a rappelé que le budget de la Sécurité sociale 2020 prévoit d'indemniser à hauteur de 40 à 50 euros par jour les aidants qui souhaiteraient prendre un congé de 3 mois. Le Premier ministre a aussi écouté les témoignages de proches aidants, soulagés de ce début de reconnaissance, Solène Lehen.
Tous racontent à leur façon leur fatigue, pire leur épuisement, au point même de négliger leur propre santé. C'est arrivé à Guy Alboussière, président de l'association Avec nos proches. Pendant des années, il a aidé sa femme, désormais décédée, qui souffrait de graves insuffisances respiratoires.
Il y avait des soins infirmiers à faire à peu près toutes les 2 heures. Et donc ça veut dire que je ne pouvais pas dormir plus de 2 heures de suite, jour et nuit. Et au bout de 3 ans, en fait, j'ai complètement craqué physiquement. Je pouvais plus rien faire.
Pour permettre à ses proches de souffler, il existe des lieux de répit. La personne handicapée ou malade y est accueillie quelques jours. Une solution qu'il faut maintenant généraliser pour Édouard Philippe.
Nous voulons les développer, créer 10 000 nouvelles places et donc ainsi doubler le nombre de ceux qui pourront avoir accès à ce répit, c'est-à-dire au fond permettre à 160 000 aidants supplémentaires de bénéficier de ce qui est indispensable s'ils veulent pouvoir continuer à vivre.
La possibilité aussi de baluchonnage va être étendue à tous les départements. Le baluchonnage, c'est un professionnel qui vient quelques jours à domicile remplacer l'aidant.
Il n'y a jamais eu autant de familles dehors, selon le SAMU social. À quelques jours de la trêve hivernale et de la mise en place du plan hiver, le SAMU social de Paris dénonce un système à la limite de l'implosion. Plus de 7000 personnes sont dans les rues, quasiment autant dorment dans des centres d'urgence et 45 000 personnes en famille vivent dans des hôtels. La météo, 6 départements sont toujours placés en vigilance orange pour pluie, inondation, vagues submersion ou crue. Demain jeudi, le temps sera encore agité en Corse avec des orages parfois violents, de la pluie le matin de l'Aquitaine vers la Bretagne et la Normandie. L'humidité gagnera l'après-midi la région centre, les pays de la Loire, la Normandie, l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Ailleurs, le ciel reste bien nuageux, des éclaircies tout de même en bord de Méditerranée. Il fera de 9 à 17 degrés au petit matin, les maximales 14 à 18 degrés sur l'ouest, 16 à 21 sur l'est. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.